Bonjour. Gueude Morien, pour mes amis barinois que je salue. Effectivement, je suis en train de faire une formation à l'Institut biblique de Genève et on avait eu l'occasion, l'année dernière, avec toute ma famille, donc avec Nadia, Elisia et Timothée, de passer un an sur place et de nous former et de découvrir ensemble la richesse de tout ce qui se trouve dans la Bible, mais aussi se former pour servir dans l'église locale. Et après, par la suite, on a fait le choix de poursuivre la formation dans un stage pastoral au Mets-sur-Seine, donc un peu plus haut, un peu plus au nord plutôt. Et vous avez les salutations chaleureuses de l'église du Mets-sur-Seine. Et si vous êtes d'accord, je leur ferai part de vos salutations très chaleureuses aussi. Et je vous invite peut-être déjà à chercher en même temps que moi le texte d'aujourd'hui qui est 2 Timothée, le chapitre 2 et les versets 1 à 13. Donc c'est vers la fin de la Bible, c'est pas très épais. Ceux qui ont la même Bible que moi, c'est la page 783. Vous avez celle-là. Alors, vous savez, ce message-là, je dois avouer que j'aurais plutôt aimé le faire avec 30 ans de ministère plutôt que être dans l'âge de la trentaine. C'est un texte qui est parfois un peu difficile à appréhender, puis ça remet en cause pas mal de choses dans notre vie personnelle aussi. Et c'est pour ça que je vous propose de... Peut-être en avance. Tu peux revenir tout au début, même, si tu veux. Ouais. Merci. Je vous propose en fait de découvrir un homme qui, je pense, peut-être peut nous éclairer un peu sur ce texte avant qu'on le lise. Donc c'est William Booth. En fait, en 1865, il a fondé l'armée du salut. Et le cri de bataille du général Booth était... En avant pour les âmes et en avant pour les pires. En avant pour les âmes et en avant pour les pires. Les pires pécheurs étaient sauvés au moyen de la prédication. Des bars fermés dans les villes, des villes entières étaient secouées par le message de l'évangile. Plusieurs personnes présentes lors de ces événements affirment que la présence de Dieu et son action étaient comme palpables. L'action surnaturelle de Dieu transformait les cœurs, les vies et les villes. Et pourtant, c'était loin d'être facile. Il est dit qu'on leur lançait des charbons ardents sur toute cette armée qui annonçait l'évangile. On les aspergeait de goudron ou de soufre brûlant. On les battait, on les lapidait et certains sont morts, battus dans les rues. Et l'armée du salut résister à ses assauts avec un chaleureux « Dieu vous bénisse » et une prière. La consigne de Booth lorsqu'on leur crachait dessus « Soldats, ne vous essuyez pas, c'est une médaille. » Et c'est à genoux, dans les larmes, la souffrance et la prière que ces personnes s'attendaient à l'intervention de Dieu. Le conseil du général pour les soldats, c'était « Travaillez comme si tout dépendait de votre travail et priez comme si tout dépendait de votre prière. » Et c'est là que je vous invite à lire ce texte de Timothée, de Paul à Timothée. Et je vous propose d'y voir, ou en tout cas nous laisser interpeller par ce message, avec persévérance, transmet et annonce l'évangile pour contribuer au salut de ceux que Dieu appelle. Avec persévérance, formons des disciples. Avec persévérance, annonçons l'évangile. Tu peux faire défiler le texte en même temps que je lis, s'il te plaît. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante s'il veut plaire à celui qui l'a recruté. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas lutté en respectant les règles. Le cultivateur qui travaille dur doit être le premier à récolter les fruits. Comprends ce que je dis, et que le Seigneur te donne en effet de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus, le Messie ressuscité, issu de la descendance de David, conformément à l'évangile que je prêche, et pour lequel je souffre au point d'être enchaîné comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas enchaînée. C'est pourquoi je supporte tout à cause de ceux qui ont été choisis, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui reste fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Jusque-là, la parole de Dieu. Je pense que vous comprenez un peu mieux mes appréhensions d'aborder ce texte. Et Paul commence cette phrase, ce texte par « Timothée, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est ton Jésus-Christ. » Paul s'adresse à Timothée, c'est son fils spirituel. Et c'est lui qui l'a formé pour le ministère. La formule laisse comprendre qu'il veut lui dire, mais armé de toute son affection, des choses difficiles. Timothée est son compagnon d'œuvre, il est plein de ressources. Et Paul, il n'hésite pas à le parachuter dans des églises qui sont en conflit, en difficulté, comme l'église de Corinthe, Thessalonique, et sans doute même Philippe. Et Dieu bénit son travail. Il l'a utilisé pour faire du bien à son église, faire progresser l'évangile. Et pourtant, là, Timothée se trouve dans une saison difficile de son ministère. Ce jeune pasteur et évangéliste est découragé, peut-être même déprimé. Il sent même avoir des maux d'estomac chroniques. Il y a quelque chose de rassurant à lire cet texte. Même des grands serviteurs de Dieu connaissent des périodes de découragement, de souffrance, où la motivation pour le service est plus difficile à trouver. C'est là qu'on apprend que le succès dans notre service, le succès dans notre vie personnelle, le succès peut-être dans la vie professionnelle, ou le succès dans l'œuvre, n'est aucunement un gage fiable de joie ni de motivation. Suffisant pour braver toutes les situations du ministère, toutes les situations des vies d'église, toutes les situations que l'on peut trouver aussi dans sa vie de famille. Toutefois, dans ces temps-là, dans ces temps de doute, de démotivation, nous pouvons trouver dans la Bible, et particulièrement dans ce texte, des paroles d'encouragement qui nous relancent dans notre service. Paul l'exhorte, « Timothée, fortifie-toi, retrouve ta vigueur, sois puissant dans la grâce du Messie Jésus. » C'est-à-dire, puise dans de nouvelles ressources. Non dans tes propres forces, ni dans de l'autosuggestion. « Ah, tout va bien !» Non, ça c'est la méthode Coué, c'est autre chose. Non, puise dans une source infinie dans laquelle tu peux te plonger. Tu peux être encouragé, être renouvelé dans tes forces et dans ton service. Et cette source, elle se trouve en Jésus. Ces quelques mots sont la clé de l'ensemble de ce chapitre. Les difficultés sont réelles, le combat est rude, mais dans tout cela, Dieu est bien plus grand. Et Paul, il lui rappelle sa mission, son job. Et c'est sans doute le premier job d'un pasteur, d'un responsable d'église aussi. ce que tu m'as entendu enseigner devant de nombreux témoins. Confie-le à des gens sûrs. Ils doivent être capables eux-mêmes de l'enseigner aussi à d'autres. Il est ici question de la transmission de l'enseignement que les apôtres ont reçu eux-mêmes de Jésus. La saine doctrine, c'est un bien précieux. Et j'imagine cet enjeu capital pour cette église naissante, quelques chrétiens éparpillés tout autour de la Méditerranée, de conserver l'essence de l'évangile de Jésus-Christ. Ce que Jésus a livré en 3 ans de ministère doit perdurer. Et cet évangile doit être vécu, expérimenté et partagé. Et aujourd'hui encore. Comprenons qu'ici, le but, ce n'est pas de parler de la prédication dominicale, ni même d'une étude biblique. Ce n'est pas, à mon sens, l'idée de ce texte-là. Effectivement, ça en fait partie, mais ça va plus loin. Il est question d'un groupe de personnes qui, eux-mêmes, pourra l'enseigner à d'autres. Il s'agit de la formation de disciples qui formeront des disciples. De même que Jésus enseignait et bénissait de grandes foules. Il est question de plus de 20 000 personnes lors de la multiplication des pains. Toutefois, lors de son ministère, il a investi plus particulièrement dans quelques personnes, des disciples qui conduiront l'Église après son retour auprès du Père, qui conserveront son évangile, qui conserveront ses paroles et qui la mettront en pratique. Selon vous, dans ce texte, combien de générations sont concernées? C'est une question vraiment ouverte. Ce que tu m'as entendu enseigner, devant de nombreux témoins, confie-le à des gens sûrs qui eux-mêmes pourront l'enseigner à d'autres. Oui. Bon, tu peux passer les diapos, je pense que j'y arriverai pas. Quatre générations. Moi, toi et d'autres, des personnes fidèles et d'autres. Et c'est une multiplication. C'est pas linéaire. C'est toujours plus de personnes qui sont au contact du message de l'évangile et qui le vivent et qui le transmettent. Et louper une de ces transmissions peut être catastrophique. Quelqu'un disait que l'Église n'est jamais qu'à une seule génération de son extinction. Ce matin, on n'aura pas le temps d'aborder tous les points de qu'est-ce que c'est la formation de disciples, mais je vais vous proposer quelques questions ouvertes et vous laisser trouver les réponses et peut-être que vous alimenterez vos discussions, vos réflexions par la suite. Mais investissons-nous personnellement sur quelqu'un d'autre. Dans nos églises, formons-nous des disciples qui formeront eux-mêmes d'autres disciples. Passer la diapo. La deuxième question, c'est que souhaitons-nous transmettre? Est-ce qu'on souhaite transmettre des traditions, une forme de liturgie, une forme de déroulement de culte? Ou est-ce qu'on veut transmettre l'évangile de Jésus qui transforme les cœurs, les pensées, les vies, qui bouleverse nos priorités? Quelle est notre intention? Notre motivation, perdurer une structure, des institutions, peut-être même des valeurs chrétiennes, ou former des disciples fidèles en vue de la multiplication et de la progression de l'évangile dans notre région. Est-ce que nous nous sommes déjà fait cette réflexion? Est-ce que j'ai du temps pour investir dans des personnes qui, entre guillemets, vont bien, qui sont déjà bien accrochés avec le Seigneur, qui vivent une vie de disciples, mais est-ce que je peux investir sur eux pour qu'eux-mêmes puissent investir sur d'autres par la suite? Pensez-vous à quelqu'un maintenant quelqu'un à qui transmettre l'évangile, peut-être des expériences aussi que vous avez vécues avec Dieu, peut-être comment cette église est arrivée ici. Je vous laisse ces différentes questions en suspens et je vous suggère d'y revenir peut-être pendant un temps de prière pour peut-être savoir avec qui passer du temps pour le former en tant que disciple et peut-être aussi vous former. Et puis, il est question de la souffrance. Et je pense que nous sommes tous confrontés à cette mission, ou en tout cas nous y sommes tous appelés et nous sommes tous concernés à former des disciples, transmettre l'évangile. Toutefois, cette mission a un coût. Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat du Messie Jésus. Oui, la souffrance. On préfère l'éviter d'habitude. Et je pense qu'on l'a déjà tous constaté, le fait de s'engager avec Dieu, le fait de s'engager aussi dans notre Église, le fait de transmettre, le fait d'annoncer l'Évangile, nous sommes forcément confrontés à l'opposition, à l'hostilité et aux difficultés. Et Paul emploie trois images, le soldat, l'athlète et l'agriculteur, pour nous faire comprendre que notre service nécessite de nous dépouiller de nos anciennes priorités de vie, pour être plus efficace, pour être disponible pour notre maître. Que nous sommes appelés à persévérer dans la droiture pour ne pas être disqualifiés du service. Que nous sommes appelés à persévérer avec patience dans l'effort pour prendre notre part de la récolte. Le combat du guerrier, la course de l'athlète, le labeur du cultivateur auront une fin. Mais pas avant d'avoir franchi la ligne d'arrivée, pas avant d'avoir terminé cette course. Néanmoins, à l'approche de la ligne d'arrivée, j'espère que je pourrai me retourner et me remémorer de mon parcours et constater que j'ai pu investir du temps dans des personnes dignes de confiance qui eux-mêmes sont encore en train de former d'autres à cette course de relais, à la gloire et au service de notre Maître. Et en tout cela, chacun est concerné par ces différents exemples. Et Paul ne fournit pas à Timothée une liste de recommandations précises, comme une checklist pour faire décoller un avion, de comment mener cette course de relais. Néanmoins, il déclare simplement que le Seigneur, par le Saint-Esprit, nous donne la compréhension nécessaire pour distinguer les lignes de notre couloir de course, pour que nous restions dans la bonne trajectoire. De même, nous luttons chacun avec des faiblesses, des péchés, des handicaps, qui sont différents, et que le Saint-Esprit nous révèle et nous aide à surmonter et parfois à fuir. Notre mission ne dépend donc pas des circonstances. De même, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, c'est-à-dire des personnes, mais nous luttons contre des dominations, contre des autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi choisissons notre combat, notre course, notre champ. Avec persévérance, formons des disciples. Et avec persévérance, continuons notre formation aussi. Timothée, souviens-toi de Jésus, le Messie ressuscité de la mort, de la descendance de David, conformément à mon évangile. Dans les 13 versets qui composent notre texte, nous trouvons trois fois Christ Jésus. Et une seule fois Jésus Christ, dans ce verset justement. Et cela accentue cette tension entre Jésus, Fils de Dieu, qui devient aussi pleinement homme, qui s'incarne, qui connaît la naissance, qui connaît la souffrance, qui doit apprendre mais des choses élémentaires de la vie, manger, marcher, compter, lire, écrire, et sans doute travailler le bois. Et Jésus, Fils de Dieu, le Messie, le Sauveur, le Roi victorieux de la mort et glorieux tout-puissant. Cela met en valeur deux faits très importants. Jésus ne s'est pas épargné la souffrance à lui-même. Jésus est aujourd'hui et pour toujours ressuscité, vivant à la droite de Dieu. C'est pourquoi l'Évangile est précieux et coûteux. Paul vit, tout comme Jésus l'a vécu à la croix, la souffrance d'être abandonné par ses compagnons les plus proches. Il fait même mention d'eux lors de son procès. Tous l'ont abandonné et l'ont laissé seul devant le juge. En effet, il écrit cette lettre du fond d'une prison dont il a la conviction que ça sera sa dernière. Pourtant, il a visité plusieurs prisons. Il souffre pour toutes les églises qui se trouvent en péril, entre les divisions culturelles, religieuses, les disputes entre les personnes, les tentatives d'infiltration, de fausses doctrines, de faux docteurs, de faux prophètes, sans compter les persécutions sanglantes. Alors qu'il est traité comme un criminel, enchaîné, restreint dans ses déplacements, qu'il souffre du froid et des privations, il se souvient que Jésus, lui aussi, a connu ses épreuves. Mais que la plus grande victoire de l'univers a été remportée dans ces conditions-là par Jésus. Lorsqu'il était à la croix, lorsqu'il a porté sur la croix nos fardeaux, nos péchés. Vous savez, toutes ces choses que nous pensons, que nous faisons, alors que nous savons qu'elles ne sont pas bonnes. Ou bien encore, les choses que nous savons que nous aurions dû les faire et que nous n'avons pas fait. Porter cette culpabilité est extrêmement difficile pour nous quand on se remémore les choses qu'on a faites et dont on a parfois honte. Imaginez maintenant porter celle des autres. C'est pourtant ce que Jésus a fait. Il a porté nos péchés dans l'angoisse et une solitude extrême. Tout s'enfuit loin de lui. Tu peux passer la diapo. Les chaînes n'ont aucun pouvoir sur le ministère de Jésus. Les clous n'ont aucune limite au ministère de Jésus. Et il en est de même aujourd'hui pour sa parole, qui est puissante, qui n'a pas de limite. La souffrance temporaire contribue à ce que d'autres puissent découvrir et bénéficier de la victoire éternelle et permanente qui est accessible en Jésus. C'est-à-dire qu'il y a un coût pour que les élus, ceux que Dieu a choisis, entrent dans le plan de salut qui se trouve en Jésus seul. Et c'est ainsi que nous-mêmes, nous entrons avec Jésus dans sa gloire éternelle. Et ce qui est magnifique, et ce que personne de nous n'aurait pu imaginer, c'est que Jésus nous fait participer à sa gloire. C'est déjà extraordinaire. Mais il nous fait même participer à son œuvre terrestre ici-bas. C'est pour ça qu'on est encore là une fois qu'on accepte Jésus dans sa vie. Et ce matin, tu peux avoir l'impression d'être enchaîné. Tu peux avoir l'impression d'être limité, faible, incapable. Mais la parole de Dieu, elle ne l'est pas. Tu peux avoir l'impression, tout comme Paul, d'être seul et abandonné. Mais sache que Jésus, il l'a promis, se trouve à tes côtés tous les jours jusqu'à son retour. Non, tu n'es pas seul. Ce que tu vis, même si tu ne le vois pas toujours, par toi-même, contribue au témoignage de l'Évangile.
Ah, t'es trop avancé, hein.
C'était l'image avec le feu. Nous présentons souvent le salut comme un cadeau gratuit de la part de Dieu. Or, c'est faux. Jésus a payé à la croix le prix fort, en subissant pour nous tout le châtiment qui aurait dû être le nôtre. Une mort horrible, des souffrances physiques, morales et spirituelles atroces. Non, ce n'est pas gratuit. Effectivement, Dieu nous donne notre part à son salut, sans aucun mérite. Nous ne faisons rien pour mériter le salut. C'est dans tout son amour qu'il nous l'offre. C'est parfois difficile à appréhender, mais la vie de disciple de Jésus a aussi un coût pour le disciple. Il s'agit de marcher à contre-courant du monde dans lequel nous vivons. Nous devons renier notre vie passée et les désirs contraires à la volonté de Dieu. Et ce texte, il a la particularité de nous révéler encore un autre aspect de ce coup. Un disciple a pour objectif de ressembler à son maître, poursuivre son œuvre. Et nous voyons ici que nous avons aussi une part de souffrance à embrasser pour rentrer dans cette continuité. Annoncer l'évangile avec pertinence là où se trouvent les personnes. Ça nécessite de prendre part à cette souffrance. Et je sais que c'est déjà difficile à entendre, et personnellement, en préparant ce message, ça m'a beaucoup secoué. Et j'ai encore beaucoup de travail à faire sur ce point-là, et j'ai souvent tendance à esquiver, mais on n'est pas obligé de sauter non plus dans cette mer de souffrance, mais assumer ce qui se présente devant nous, et si on a l'occasion d'en sortir, en profiter. C'est comme l'enseignement de Paul pour ceux qui sont par exemple esclaves d'un maître qui n'est peut-être pas très gentil. Mais on a une part à prendre et à assumer dans notre ministère. Nous avons tous un ministère auprès des personnes de l'Église et à l'extérieur. Mais ça nécessite de les comprendre et parfois de se retrouver dans cette situation de difficulté pour pouvoir les accompagner à partir de là. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin que eux aussi obtiennent le salut qui est en Christ Jésus, avec la gloire éternelle. Dans l'Épître aux Éphésiens, Paul déclare que Dieu, avant même la création du monde, dans son amour, nous a prédestinés à être des enfants adoptifs par Jésus-Christ. Et Paul, ici, il expose une tension qui est palpable entre notre liberté d'action et la souveraineté de Dieu, pour que les personnes que Dieu a choisies prennent part au salut et à la félicité éternelle, la présence de Dieu. Cette joie surabondante, cette joie extravagante que nous vivrons. Et la doctrine de l'élection, c'est de ça qu'il est question, a fait couler beaucoup d'encre, de salive et parfois plus encore. Des plantages de fourchettes dans les mains, dans les discussions de cantine, des instituts bibliques. Ce n'est pas arrivé à l'IBG, vous pouvez y aller. Paul ne tente pas de résoudre cette tension, et moi non plus. Mais il nous rappelle que nous avons le privilège de participer au déroulement du plan de salut de Dieu. Jésus déclare « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Ainsi, il y a deux vérités qui cohabitent. Le salut des élus est sûr car garanti par Dieu. Les hommes participent à faire entendre la voix du bon berger aux élus. Et pour cela, Dieu équipe chacun pour cette mission. Ton action n'est pas vaine, car l'œuvre de Dieu elle est puissante et infaillible. Et Paul enfonce le clou en affirmant que cette parole est certaine. Et comme au travers d'un hymne, un chant, il éclaircit notre rôle dans la persévérance. Persévérer pour arriver au but. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui reste fidèle. Car il ne peut se renier lui-même. Alors, qui fait quoi dans le salut ? Au verset 10, « Je supporte tout », Paul déclare. « Je facilite l'acceptation du message. Je n'ajoute pas d'obstacles supplémentaires à la compréhension de l'Évangile. » Verset 11, « Nous persévérons à courir sans nous disqualifier du service. En tout, nous savons que Dieu est fidèle et assure le succès du salut pour tous ceux qui lui appartiennent. La fidélité de Dieu indique aussi que Dieu reste lui-même, à la fois juste et digne de confiance. Ses promesses sont justes, tout comme l'annonce du jugement. De même, soit nous renions notre vie passée, soit nous renions Dieu. Cela ne veut pas dire que nous sommes parfaits, j'en suis témoin, ma femme pourra vous en parler, ni que nous péchions plus, ni que nous ne chutons jamais, ni que nous ne sommes plus en lutte avec le péché ou nos désirs qui ne sont pas bons. Mais cela veut dire que nous désirons plus que tout honorer Dieu et vivre dans sa présence. Sa fidélité nous garantit que lorsque nous nous confions en Christ, même dans les difficultés, la souffrance et nos chutes, lui nous relève et il nous tient fermement dans ses mains. Et Dieu reste fidèle dans son amour. C'est pourquoi, avec persévérance, annonçons l'Évangile. Peut-être c'est difficile pour toi. Peut-être dans ton entreprise, rien ne va. Ton patron est insupportable, les collègues, c'est pas mieux. Et en plus, tu as la pression sur tes épaules. Quand tu arrives le matin, tu as une boule au ventre déjà. Peut-être tu es au lycée, au collège. Tu vis peut-être dans un milieu qui est dans les moqueries, peut-être même la violence. Peut-être même quand tu rentres à la maison, ça te suit encore. Tu reçois des messages Facebook qui t'insultent. Peut-être dans ta famille, tu es la seule personne à manifester de l'amour. Peut-être tu es la seule à se mettre au service des autres. Ou peut-être tu te sens seul dans ton quotidien. Personne ne se soucie de moi. Si je n'étais plus là, qui s'en apercevrait? Peut-être tu t'es déjà posé ces questions. Et je ne remets aucunement en cause tes souffrances. Le fait que tu en as marre, à juste titre. Mais je t'encourage à te mettre à genoux devant Dieu et lui remettre cette saison difficile. Pour que cette saison difficile de ta vie produise des fruits éternels. Car la parole de Dieu n'est pas enchaînée, y compris dans ta vie. Je t'encourage peut-être à aller voir les anciens, le pasteur, pour prier avec eux. Et si c'est nécessaire, de pleurer avec eux. Il est dit, soyez dans la joie avec ceux qui sont dans la joie, et pleurez avec ceux qui pleurent. Et si là, tu sens comme une boule dans ta gorge, pour toutes ces personnes qui vivent cette situation, que tu as de la compassion pour eux, invite-les à déjeuner. Prépare une spécialité de chez toi. Une choucroute, un sakasaka. Et ouvre la Bible avec eux. Non, ce n'est pas du temps perdu. L'amour de Dieu est puissant pour transformer profondément les cœurs et les situations. Et je vais conclure. Tu peux mettre la diapo encore. Ah, c'était pour vous prouver que je ne vous mens pas. Donc c'est un article. Donc le titre, c'est « Le pouvoir calmant de la Bible dans une prison de haute sécurité ». Donc c'est un article qui a été publié sur le site. Tu peux regarder juste avant. Donc c'est un article qui a été publié sur Nouvel Obs par Rue 89 et qui vient du New York Times. Bon, j'arrête de bouger. Tu peux passer à la suivante. Dans une prison de haute sécurité en Louisiane, 6300 détenus et quelques 2500 fréquentent assidûment des offices religieux, pour la plupart protestants. Et je vais vous lire un petit témoignage de ce qui se trouve dans l'article. Daryl Walters est diplômé d'un programme d'enseignement des plus intrigants, le Collège Southern Baptist Bible, situé à l'intérieur de l'immense établissement pénitentiaire. Cet institut offre un cursus rigoureux de 4 ans, comportant notamment des cours de grec, d'hébreu, ainsi que des cours de théologie pastorale alternative, pouvant être utilisés dans des dortoirs et des réfectoires. Le programme a généré à présent 241 diplômés, presque tous des condamnés à perpétuité. qui vivent et travaillent parmi leurs co-détenus. Des douzaines de ces diplômés ont demandé à être transférés dans d'autres prisons du pays pour servir comme pasteurs et conseillers spirituels. Le titre, le sous-titre, « La religion pour éviter la rage et le désespoir ». L'investigateur de ce programme, Burl Kane, qui dirige la prison depuis 1995, lorsqu'il arrivait, il arrivait dans un climat nauséabond de violence et de désespoir. Les gens n'avaient rien à perdre. Celui-ci assure que l'impact du programme va bien au-delà du fait que les détenus participent à des offices religieux. Tu peux mettre le graphique. La prison est devenue plus calme. En 1990, on recensait 1387 agressions entre les détenus et envers les gardiens. En 2012, les chiffres sont tombés à 371. Presque 80% de diminution des agressions. En se rappelant qu'il y a tout le temps des nouveaux détenus qui arrivent. Hein. Monsieur Kane a mis en place une discipline stricte et favorisé le discipulat de détenu à détenu. J'imagine cette scène lorsque ce directeur de prison est venu rencontrer les dirigeants de l'Institut de théologie pour leur proposer d'installer un campus au milieu de la prison. De plus, pas n'importe quelle prison, une prison dont on ne ressort jamais. Même le cimetière se trouve dans les murs. Certains ont dû s'étouffer avec le café. Enfin là, je pense que derrière ce genre de réunion, c'est « oui, on va prier, mon frère hein. ». Imaginez des théologiens maintenant qui rentrent dans ce lieu d'angoisse, de souffrance et de mort, entourés de meurtriers, de violeurs, de criminels, dont beaucoup n'ont jamais eu de formation scolaire, ni entendu parler de Jésus. Et maintenant, 30 ans plus tard, dans cette prison, plusieurs églises, 245 pasteurs formés, des missionnaires envoyés dans d'autres prisons, un tiers de la population convertie à Jésus-Christ. Non, les chaînes ne sont pas une limite à la puissance de Dieu. Derrière des murs, des barbelés, se trouvent des frères qui annoncent l'évangile à des criminels et forment des disciples et même des pasteurs. Nous voyons bien que cette œuvre particulière se trouve dans la continuité de l'enseignement biblique. Ce matin, je veux vous encourager à assumer d'être disciples de Jésus-Christ, à former des disciples, à transmettre l'évangile dans l'Église, mais aussi à tous ceux qui ne connaissent pas Jésus. Pouvons-nous faire nôtre cette devise ? En avant pour les âmes, en avant pour les pires ? Avec persévérance, y compris dans la souffrance, transmettons et annonçons l'Évangile pour contribuer au salut de ceux que Dieu appelle. C'est ça que je voudrais vous laisser ce matin. Je propose de prier ensemble. Seigneur, je te remercie pour ce texte que tu nous donnes ce matin, aussi pour tous les chants que nous avons chanté à grande voix ce matin, qui disent « Je te donne tout, Seigneur ». Seigneur, c'est facile à chanter, plus difficile à vivre. Et Seigneur, je te demande, s'il te plaît, de nous fortifier. Donne-nous de puiser dans tes ressources qui, elles, sont illimitées. Permets-nous de, là où nous sommes, assumer cette part de souffrance qui est la nôtre. Permets-nous d'annoncer ton évangile sans notre culture, mais simplement tes paroles. Tes paroles qui bouleversent les vies, qui transforment les vies et qui forment des personnes qui sont tes disciples jusque dans l'éternité. Seigneur, je te demande s'il te plaît de mettre sur nos cœurs des personnes avec qui nous voulons passer du temps pour grandir ensemble devant toi. Et Seigneur, je te prie pour ton église de Veneux. Seigneur, je te demande, s'il te plaît, que des disciples puissent accueillir et annoncer l'évangile à ceux qui ne te connaissent pas encore. Et que tu puisses construire un édifice humain connectés et qui vivent ton évangile. Merci Seigneur, parce que toi tu peux tout et bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Et ce matin, nous te disons tout à nouveau que nous nous consacrons à toi et que nous t'attendons dans nos vies, nous t'attendons dans nos relations et nous voulons vivre pour toi pleinement. Merci Seigneur mon Dieu, je te prie dans le nom de Jésus.